Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport. C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon lundi. Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de cette première de la semaine de C'est bon pour la santé sur les ondes de Canal M. En deuxième partie d'émission, je pose cette question. À quoi notre cerveau carbure? Vous savez, il y a certains nutriments que l'on retrouve dans notre alimentation, notre nourriture, qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre cerveau. Est-ce que les aliments que l'on mange peuvent nous rendre plus performants, plus concentré? Ce sont les questions que je poserai à Cynthia Chapuel, qui est nutritionniste. Mais d'abord, les agriculteurs, des travailleurs qui sont, à mon sens, souvent oubliés. Et pourtant, ben, c'est souvent grâce à eux, du moins en partie, que l'on peut manger, se nourrir. L'agriculture, c'est un travail qui peut comporter beaucoup de risques pour la santé. Et d'entrée de jeu, on va penser à des risques de blessures ou d'accidents liés à la machinerie agricole, entre autres choses. Mais de récentes statistiques émises par Santé Canada indiquent que la santé mentale est tout aussi affectée, peut-être même plus, et ça, on l'apprendra, et que le taux de suicide chez les agriculteurs du Québec est deux fois plus élevé que chez la population en général. Maria Labrec-Duchesneau, elle s'intéresse à la santé des agriculteurs, de leur famille également. Elle est intervenante psychosociale, fondatrice et directrice de l'organisme Au cœur des familles agricoles. Je vous la présente à l'instant. Bonjour Maria.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Mais c'est le plaisir pour moi avec ma voix de blues.
La santé des agriculteurs, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Il y a eu un recensement en 2006, un recensement de l'agriculture qui a dénombré 30 675 fermes au Québec. C'était une baisse de 4,6% au cours des cinq dernières années. Je me demande avec vous à quoi va ressembler cette industrie-là dans X années. Et j'ai l'impression que l'avenir n'est pas si rose que ça pour les agriculteurs.
L'avenir n'est pas si rose que ça. Les agriculteurs, ça travaille 7 jours sur 7. Dans les animaux, on est obligé d'être là 24-24. Alors, oui, l'agriculture change. Oui, j'ai beaucoup de fermes dont n'ont pas de relève. J'ai beaucoup de fermes qui n'ont pas de moyens de transférer et aussi qui ont de l'âge. La moyenne des producteurs présentement, ça va facilement à 55 ans. Donc, si on parle de santé des producteurs, bah, je pense que si on parle de santé en général d'un corps humain rendu à 50 passé, les bobos sortent, surtout si on a travaillé très fort.
Mm-hmm.
Donc, la relève, c'est la même chose.
Il y a beaucoup de facteurs de stress également. Et on n'y pense pas quand on vit notamment... Bon, Canal M est diffusé partout au Québec, je tiens à le rappeler, mais moi, j'habite Montréal depuis plusieurs années. Et il a fallu que je me rappelle, parce que je viens de la campagne, que je me souvienne que, oui, les agriculteurs, ils sont dépendants de la température. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent avoir un impact sur leur santé mentale.
Effectivement, quand tu as l'impression de travailler pour pas beaucoup de sous, ben c'est pas tellement encourageant. Ça dépend des productions. Il y a des productions qui vont hyper bien, mais il y en a d'autres que c'est le prix du marché n'est pas là. On a aussi les aliments qui viennent d'ailleurs, parce que moi, j'arrête pas de dire qualité égale, rentrée légale. Au Québec, on a de très bons produits. Et on a le côté environnemental qui est très surveillé, mais c'est pas vrai que c'est pareil ailleurs. Alors, je dis souvent, assurez-vous d'acheter québécois parce que on aide nos agriculteurs en achetant leurs produits.
Mm-hmm.
On aide un producteur à être heureux le matin, à se lever à 4h30 pour étirer ses vaches. Puis le soir, quand il se couche à 10h, ben, on aime ça, qu'il se lève en santé. L'idée, c'est le stress gagne du terrain.
Ouais.
Quand on parle de santé mentale, il faut s'entendre. Là. La fatigue, le stress, comme je dis souvent, le stress, c'est comme de A à Z. Rendu à Z, ça change de nom. Ça devient détresse.
Mm-hmm.
Donc là, ça s'appelle, oh là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, de là, la maison de répit ACFA, qui a fait en sorte que moi, je les sors de leur quotidien et j'essaie de leur trouver une qualité de vie,
mm-hmm.
tout en jasant avec eux autres.
Mais qu'est-ce qui fait, Marianne, que les agriculteurs se rendent jusqu'à Z, qu'ils ne s'arrêtent pas à K ou L pour aller consulter?
Parce que le besoin de travailler, il n'y a pas de K ni de Z. C'est tous les jours. Tous les jours, c'est la température. Souvent, je demande, je donne beaucoup de conférences et je demandais aux étudiants vendredi passé, je dis, qui croit que c'est le producteur qui mène son entreprise ou bien si c'est l'entreprise qui mène le producteur? Et il y a 3-4 enfants qui, enfin, entendons-nous, là, jeunes adultes, ici, m'écoutent, ils n'aimeront pas ça, mais ils lèvent leurs mains, ils étaient 4-5. Pour eux autres, c'est le producteur qui menait son entreprise. Mais pour puis là, je dis, qui croit que c'est l'entreprise qui mène l'agriculteur? Et toutes les autres mains se sont levées. Mm-hmm. Parce que c'est la température qui mène, c'est l'urgence.
La santé des animaux également.
Exact. On travaille beaucoup, beaucoup en pompier. C'est-à-dire, on éteint des feux de façon constante. Ça use, ça. Oui.
Est-ce que le fait d'être en milieu rural amène plus de préjugés liés à consulter pour notre santé mentale?
Eh hey boy! J'ai parti un nouveau travail qui s'appelle le travailleur de rang.
Oui.
Le travailleur de rang, c'est comme les travailleurs de rue. Il faut qu'il se fasse connaître, il faut qu'il se fasse apprécier, il faut qu'il aille chercher la confiance des gens, ce qu'Au cœur des familles agricoles a fait. Donc, moi, je suis intervenante psychosociale et aussi, je suis travailleur de rang. Ça fait 15 ans que je fais ça. Donc, tiens, ce matin, c'était deux madames en pleurs qui m'ont appelé disant qu'on n'est plus capable, on est fatigué. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Mm-hmm.
Alors, moi, je dis qu'il faut protéger d'abord. Si on veut les emmener à la maison de répit, bien, moi, je suis obligée de savoir si, qui va faire la traite des vaches. Je suis obligée de savoir qui va être là pour les moutons ou peu importe. Si vous avez vu le film Le démantèlement...
Oui, avec Gabriel Arcan.
Ah, c'est tellement vrai que je suis dans le cinéma puis j'ai pratiquement pleuré tout le long parce que c'est qu'est-ce que je fais comme travail. Remonter une personne qui est dépassée par... Je veux aider mes enfants, mais il faut que je me débarrasse de mes biens pour pouvoir l'aider.
Et je n'ai pas nécessairement de sous pour ma retraite.
Oh,
ça aussi, ça, c'est un facteur de stress. Et c'est le legs de mes parents et de mes arrière-grands-parents, parfois aussi, que j'abandonne.
Et croyez-moi, le restant de la famille s'arrange pour lui dire
que
tu es en train de liquider notre bien familial. Mm-hmm. Je vous le dis, quand j'ai écouté le démantèlement, j'ai compris que l'auteur savait de quoi il parlait.
Oui. Marianne Labrecque du Chesneau, vous parliez de cette expérience ce matin avec deux femmes en pleurs qui ont demandé votre aide. Et les chiffres sont assez révélateurs en ce sens-là. Les femmes qui vivent sur une ferme sont deux fois plus touchées par la détresse psychologique que les hommes. Pourquoi donc?
Parce qu'ils sont plus isolés. Le monsieur qui se lève à 4h30 du matin, si la madame ne va pas à la grange pour faire la traite des vaches, bien, quand elle y va, ils y vont ensemble. Mais quand elle y va pas, elle reste à la maison pour les enfants, etc., elle se lève constamment seule le matin.
Mm-hmm.
Tous les jours, 7 jours sur 7. Ils prennent peu de congés. Hein. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, de prendre des congés. Donc, le soir, souvent, elle va souper tout seule avec les enfants parce que monsieur va rentrer à 7h30, 8h.
Mm-hmm.
Et à 9h30, il dort sur la chaise. C'est des gens fatigués à un moment donné, là. C'est qu'est-ce qu'ils vivent? La petite madame qui est enceinte puis qui accouche au mois de... pour le Montérégie à avril-mai, ben mettons que cette jeune relève, mâle, exemple, est-ce qu'elle va arriver tout juste à l'accouchement puis elle vivra pas, là... Le monsieur à la maison, puis le congé parental.
Oui, c'est ça. Puis quelqu'un pour l'encadrer dans les nuits courtes également.
Et dites-vous que la madame qui arrive sur une ferme, elle arrive dans le monde parce que c'est très masculin.
Oui, encore.
Et c'est très de génération en génération. Donc, la madame qui arrive dans le décor, la blonde du monsieur, bien, elle arrive dans la famille de monsieur.
Oui.
On parle de grand-père, grand-mère, mon oncle, ma tante. Tout le monde.
Et c'est une transmission, j'imagine, qui se veut encore masculine. Donc, père voudra léguer en premier lieu à son fils, s'il en a un probablement, et la jeune fille doit prouver qu'elle mérite aussi.
Malheureusement, c'est vrai. C'est vrai que la fille est aussi capable que le gars. Elle travaille de façon différente. Mais les parents disent tout le temps, tu sais, quand tu vas avoir un bébé, comment tu vas faire? Mais assurément que c'est différent. et que c'est plus difficile pour une madame.
Oui. Marie-Ève, vous parliez de ce travail-là que vous faites depuis 15 ans maintenant, travailleur de rue. Comment ça s'articule?
Travailleur de rang, pardon.
Travailleur de rang, oui, qui est complètement l'inverse, oui, de travailleur de rue. Vous vous promenez en voiture, vous allez cogner aux portes, vous rencontrez les agriculteurs un à un comme ça?
C'est tout ça. C'est d'aller chez le producteur, de rentrer dans la grange, puis de ressortir en disant, bien, ma mission accomplie parce que j'ai fait un bout de chemin avec. C'est d'aller dans la batteuse. C'est
dans le champ, carrément.
Dans le champ. J'ai déjà demandé au monsieur, viens-tu, on va marcher ta terre. Puis j'ai marché longtemps, je peux vous dire que je ne pensais pas qu'il y en avait si grand. Ceci dit, c'est aussi du face-à-face. C'est aussi la maison de répit. On accueille des gens de 3-4 jours à la maison. Pourquoi juste 3-4 jours? Parce que si c'est plus que ça, il va dépérir.
Ah oui.
Parce que l'ouvrage l'attend à la ferme. Donc, nous faisons en sorte de court temps, mais qui peut revenir. Donc, le travail de rang, c'est bien connaître l'agriculture. Oui. C'est connaître les enjeux. Exemple, à Montérégie, s'il pleut tout le mois d'avril, je suis très au courant qu'il y en a qui commencent à dire « Oh boy! »
Le moral est bas, là.
Très. Le maraîcher, c'est la même chose. On fait quoi l'hiver? Ben, on fait beaucoup de neige. Vous savez, en ville, ici à Montréal, beaucoup, c'est des producteurs qui sont dans vos rues avec les camions à grains pour ramasser la neige. Tandis qu'ils font des très grandes heures.
Oui.
Moi, j'aime ça quand de dire aux auditeurs, « Mon Dieu, quand vous vous promenez, dites donc merci aux producteurs. » C'est qu'à chaque fois qu'on mange nos 3 repas par jour, on pense que ça s'est fait tout seul.
Non, non, il y a des gens derrière ça. Est-ce qu'il y a des gens, que ce soit peut-être des travailleurs des caisses populaires ou dans les meuneries, qui vous indiquent « Écoute, Maria, va voir un tel ou une telle, je pense que ça va pas bien. »
Ah, beaucoup. Les personnes qui m'appellent, ça va être la finance. Ça peut être l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, ça peut être d'autres producteurs, la voisine, la femme, la sœur, le frère. Il n'y a pas de limite. Mm-hmm. Et du moment qu'on m'appelle, je réponds tout le temps la même chose. Bonjour, je vous appelle parce que quelqu'un qui vous aime assez pour que je vous appelle. Et j'ai dit, vous avez la première question. Puis c'est toujours la même. Ils vont me répondre, c'est qui? Alors moi, je leur dis, bien, ça se peut qu'il y ait 1000 personnes qui vous aiment assez pour vous avoir appelé. Et la dernière question, c'est lui qui l'a. J'ai dit, on va raccrocher. Est-ce que vous avez une question? C'est toujours la même qu'il me donne. C'est qui t'a dit mon nom? Il faut que vous compreniez que si le producteur dit qu'il a une santé mentale précaire, bien, toute la finance, c'est pas bon pour lui.
Oui.
Les assurances, c'est pas bon pour lui. Donc, il va garder ça secret parce que ça coûte énormément cher être un agriculteur et développer son agriculture.
On oublie peut-être trop souvent que c'est une entreprise et que ça repose souvent sur une seule personne ou du moins une famille. Il y a les enfants également qui peuvent être touchés par ça.
Ah, oh, beaucoup. Écoutez, moi, j'ai 14 frères et sœurs et on avait toutes nos tâches. Alors, c'est encore comme ça aujourd'hui, là.
Ouais.
Et tout le monde a sa petite tâche, l'âge que tu as. Exemple, bien, l'école, quand les enfants d'agriculteurs vont à l'école puis qu'ils entendent, bien, moi, je m'en fais du ski au Massif, je vais faire du ski à Bromont, peu importe, bien, souvent, le jeune d'agriculteur, bien, lui, bien, moi, je me suis occupé des jeunesses puis je me suis occupé des torts. Mais c'est quand qu'il a fini le secondaire puis qu'il s'en va à des institutions d'enseignement spécialisées en agriculture qui, là, ils disent... « Ah, là, je suis à ma place. »
Oui, voilà. Je ne suis pas aussi marginale que je le pensais. Est-ce que les adolescents peuvent venir à votre maison de répit ACFA?
Non, c'est 18 ans et plus. Mais j'ai pas... souvent, s'il y a un problème, j'ai tout mon réseau de contacts. Tiens, la semaine passée, c'était un parent qui avait beaucoup de misère avec son ado de 14 ans. Alors, j'ai fait les liens. Et me voilà, je sais que quelqu'un va voir le jeune et je vraiment, là, je trouve toujours quelqu'un qui peut aider une autre personne. Parce que je ne peux pas aider tout le monde.
Non.
Vous savez, c'est l'année 2014, j'ai vu 1152 personnes.
Oh! Autant dans les fonctions de travailleurs de rang ou davantage à la maison de répit ACFA?
à la maison de répit ACFA et travailleurs de Reims, pour moi, c'est la même affaire.
OK.
Donc, la maison de répit, quand ils viennent, c'est vrai que ce n'est pas comptabilisé pareil, là, mais face à face, là, c'est 1152 et plus de 300 nouveaux clients.
Et comment ça se passe quand l'agriculteur entre dans la maison de répit ACFA? Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour 3 ou 4 jours. Est-ce qu'il y a des spécialistes là, pour l'encadrer, pour le faire jaser?
Tout à fait. On a un médecin qui est encadré avec nous. Quand ils viennent chez moi, je prends rendez-vous avec le médecin et elle le voit. C'est un arrangement qu'on a fait ensemble. Elle le voit des fois dans les heures qui suivent ou d'autres fois dans une journée ou deux après. Mais il y a un suivi médical. Par la suite, j'ai aussi un médecin thérapeute qui vient une demi-journée par semaine à la maison de répit. Et il n'y a pas de limite. Quelqu'un m'appelle de Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais trouver la ressource nécessaire. Et je trouve à chaque fois, les gens sont généreux de leur entraide. Les gens sont généreux dans leur vouloir que les personnes soient bien. Et je n'ai pas souvent de problème avec les C3S. Quand j'appelle, il y a toujours une connexion. Puis quand je ne la trouve pas, j'appelle un autre C3S et je retrouve encore une autre réponse qui fait mon affaire et qui fait son affaire au client.
Est-ce qu'il y a un plan d'intervention à long terme? C'est-à-dire que quand l'agriculteur quitte après 4 jours, ce plan-là demeure, vous allez le revoir après X temps?
On s'appelle parce qu'il vient de plus de 2 heures de route. On se parle par téléphone beaucoup. Alors, pourquoi mettre du stress? Le téléphone fait bien la job. Skype fait la job.
Alors,
on peut trouver des façons. Et quand je donne des conférences à travers le Québec, écoute, je finis tout le temps dans un manteau en arrière. Parce que il me jase.
Oui.
J'ai tel problème, qu'est-ce que je peux faire? Là? Aide-moi un peu, tu sais.
Ils ont ce besoin-là, Maria.
Ah, puis ils veulent, puis ils me parlent de partout. Au Québec. C'est ça qui est intéressant. Je te dis pas que parfois, c'est pas d'une tristesse. Chez moi-même, je suis une personne humaine et sensible, fait que oui, parfois, c'est difficile quand que c'est un enfant qui part comme ça, là, parce qu'il y a eu un accident de ferme. Je peux dire que ça t'arrache les tripes un peu. Ou bien non, quand ton client décède, tu te dis, ben décède de maladie, parce que moi, j'en ai un que la semaine passée qui est décédé, que j'ai appelé à toutes les 2 jours. Et c'est bizarre à vous dire, mais il me manque.
Oui. Ça devient, en plus d'être des clients, des patients, des amis également.
Effectivement.
Et ce qui est particulier pour la maison de répit ACFA, c'est qu'elle n'est pas située en milieu rural. Vous avez voulu vous distancer de ça.
Tout à fait. C'est dans mes visites auprès des producteurs. Vous savez, on est assis sur le balcon, puis le voisin, il est dans le champ. Puis on voit la poussière monter et lui fatigué en disant « Je devrais être dans le champ, tu vois, je ne suis pas capable. » Puis fâché. On ne peut pas... L'agriculteur, il sait que s'il n'est pas là, on a un temps... OK, je vais expliquer comme il faut. On est dans un pays nordique. On a un temps pour semer, on a un temps pour arroser, on a un temps pour récolter. Et tout ça avec Dame Nature.
Oui.
Fait quand il fait beau, je peux-tu vous dire qu'on peut en profiter?
Oui.
Donc, il fatigue. Alors moi, mon job, c'est de trouver de l'aide. Mon job, c'est de dire, regarde, demain, on en sait beau, t'as-tu regardé sur Météo Média? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins bon pour toi, mais demain, ça va être meilleur.
Oui.
Puis souvent, je dis, rappelez-vous, là, 20 ans, 30 ans, c'était la même affaire. Pourquoi, là, ça vous énerve plus que d'autres? Donc, la maison, oui, est en pleine ville. Ils ne connaissent pas ça, c'est déjà pas mal.
Oui.
Saint-Hyacinthe. Et ils sont proches du cinéma, ils sont proches
des restos.
Ouais. Bref, souvent, c'est mon mari qui va au cinéma avec le client. On essaie de trouver des choses qui me disent, ça fait 30 ans que je ne suis pas allée au cinéma. Bon, bien, c'est le temps d'y aller. Peut-être que c'est une belle alternative.
Maria Labrec-Duchesneau, votre travail est remarquable. J'aurais aimé vous garder encore pour une heure.
Les gens te diraient... que je pourrais en parler des journées de temps.
Je n'en doute pas. Merci beaucoup de votre passage. Merci à l'émission. Vous êtes intervenante psychosociale, fondatrice et directrice de l'organisme Au cœur des familles agricoles, www.acfareseau.qc.ca. Si des gens ont entendu cette entrevue, qu'ils connaissent des agriculteurs en détresse, ils vous appellent, vous saurez les diriger.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Cynthia Chaput.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et vous êtes là pour nous parler de à quoi carbure notre cerveau, parce que une saine alimentation, on le sait, en tout cas du moins de plus en plus, ça a un impact sur notre santé globale, mais ça peut également avoir un impact sur nos facultés cognitives.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faudrait manger pour avoir un cerveau qui fonctionne bien?
Bien, de façon générale, en fait, le cerveau nécessite pas moins de 40 éléments nutritifs pour bien fonctionner. Donc, ça paraît beaucoup, mais on peut généralement aller rechercher ces éléments-là dans une alimentation qui va être variée, équilibrée. Parmi ces éléments-là, on peut penser entre autres aux glucides, donc la grande famille des sucres qui, eux, sont le carburant principal là, pour le cerveau. On peut penser aussi aux oméga-3, la vitamine B1, le fer, les antioxydants. Donc, c'est plusieurs nutriments qui sont essentiels, mais faut se rappeler qu'un nutriment lui seul ne fera pas de miracle. Donc, faut vraiment regarder l'alimentation dans son ensemble.
Donc, de façon concrète, vous nous avez nommé des nutriments. On pourrait les retrouver dans quel type d'aliments?
En fait, les glucides, donc qui sont les sucres, on peut les retrouver, on va aller les rechercher principalement dans les produits céréaliers, donc comme les pâtes, le riz, le pain, qu'idéalement on va choisir à grains entiers. Également dans les fruits, dans le lait, le yogourt, les légumineuses et certains légumes qui en sont plus riches comme la pomme de terre ou le maïs par exemple. Si on parle des oméga-3, donc on a les acides gras oméga-3 qui sont aussi essentiels au cerveau, eux, on va aller les rechercher principalement dans les poissons à chair grasse, comme le saumon, la truite, les sardines, par exemple. Il y a d'autres sources végétales aussi, comme l'huile de canola, ou l'huile ou les graines de lin, la graine de chia aussi. On fait quelques exemples de sources végétales pour les oméga-3. On a nommé les antioxydants aussi. Eux, c'est principalement dans les légumes et les fruits. Donc, surtout les légumes verts, foncés, les petits fruits. Mais tous les fruits et légumes peuvent nous amener des antioxydants.
Et le fer, notamment dans la viande?
Oui, effectivement, dans la viande, les abats, aussi les légumes verts feuillus, des fruits séchés également en quotidienne. Oui, effectivement.
Est-ce que certains symptômes peuvent être révélateurs de carences dans ces nutriments-là?
Oui, en fait, ben, si je repars avec les glucides, là, notre carburant, ça, on peut s'en rendre compte très rapidement si on n'en consomme pas. Par exemple, si on saute un repas, bien vite, on peut avoir une fatigue intellectuelle, une baisse de notre concentration, signe que notre cerveau a pas eu assez rapidement cette énergie-là dont il a besoin. Au niveau par exemple, le fer, on connaît un peu les symptômes classiques là, d'une anémie, donc d'une carence en fer, qui sont souvent une fatigue généralisée, une faiblesse. Ça peut affecter notre productivité, que ce soit au travail ou à l'école. Ça peut avoir un impact là, sur nos performances intellectuelles et même occasionner des sautes d'humeur, par exemple.
Cynthia, une question qui saura en intéresser plusieurs parce que dans mon entourage, j'ai l'impression que bien des personnes se plaignent de troubles de la concentration. La vie va tellement vite, souvent notre boulot nous demande plusieurs tâches à la fois. Est-ce que certains aliments peuvent aider notre concentration?
C'est sûr que là, si je reviens à l'alimentation globale, les principes de base comme éviter de sauter un repas, par exemple, prendre des collations si le repas est très espacé, bien, ça va nous permettre d'avoir assez d'énergie pour éviter une baisse de concentration au travail. Également, l'eau, si on parle d'un aliment, ce serait l'eau. Donc, de s'hydrater bien tout au long de la journée, la déshydratation, elle, pourrait amener aussi une baisse de notre concentration. Des fois aussi, on pense, là, pour se stimuler notre réflexe, ça serait d'aller chercher un bon café quand on se sent moins productif. Le café, dans les faits, là, la caféine peut avoir un potentiel d'augmenter temporairement la vigilance, notre capacité d'attention. Par contre, il faut que ça soit de façon modérée, là, parce qu'à l'inverse, si on en consomme trop, ça peut être nuisible. Donc, on suggère de ne pas dépasser déjà 3 tasses par jour.
J'ai l'impression aussi que des gens, pour se stimuler, vont avoir tendance à prendre du sucre, comme du chocolat, par exemple. Est-ce que ça peut être une bonne idée?
Bien, en fait, c'est un réflexe. Des fois, on a ces envies de sucre-là. Si, par exemple, on n'a pas assez mangé ou un repas qui n'était pas assez rassasiant, en fait, c'est un réflexe du corps puisque les glucides, les sucres, on l'a dit, c'est notre énergie pour le cerveau. Par contre, on va aller prioriser des aliments qui en contiennent naturellement, qui sont des aliments du quotidien, comme ceux que j'ai nommés plus tôt. Donc, des sucres très concentrés, on va les limiter.
C'est meilleur un fruit qu'une barre de chocolat, mettons.
Oui, il y a aussi les éléments nutritifs que ça va nous emmener. Mais si on pense à des glucides qui peuvent provenir, par exemple, d'un pain à grains entiers, c'est un glucide complexe, donc l'énergie va durer un peu plus longtemps que notre barre de chocolat.
Vous avez parlé à quelques reprises, Cynthia Chaput, du danger de sauter un repas, et ça me ramène à l'importance du déjeuner.
Oui, tout à fait. On dit souvent le déjeuner, c'est un repas qui est important. On met fin à notre jeûne de la nuit, finalement. Donc, c'est de refaire le plein d'énergie pour bien commencer la journée, puis être concentré en matinée. On va suggérer justement de prendre une source de glucides, mais également des protéines au déjeuner pour que cette énergie-là nous soutienne sur une plus longue période. Des exemples de protéines au déjeuner, ça pourrait être par exemple du beurre d'arachide ou des noix, de l'œuf, du fromage, du lait ou une boisson de soya, entre autres.
Et c'est tellement un repas agréable. En tout cas, du moins pour ma part, Cynthia Chaput, vous êtes nutritionniste. C'était très intéressant et très, très rapidement pour les enfants. On observe les mêmes choses dans leur boîte à lunch et leur collation?
Oui, c'est ça, d'avoir une variété d'aliments équilibrés, de s'assurer finalement qu'il n'y ait pas de carence, puis qu'on ait tout ce qu'il faut pour bien fonctionner.
Merci
toute la journée.
Beaucoup, Cynthia Chaput. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Au revoir.
Merci, au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde, Marianne Paquette. On vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.